tendance. Laurent Bourdella.
Oh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe.
Bonjour à tous, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le samedi à 11h30 et à la technique aujourd'hui il y a Vincent. Je recevrai dans quelques instants Franck Bouys pour son roman Londres ou les ruelles sans étoiles qui vient de paraître aux Ardents éditeurs avec des illustrations de Pierre Desmarty. Franck Bouys, qui vit et travaille à Limoges, a raconté sur le site de la librairie arédienne arédienne Catherine de Montpion, qu'il s'est pris de passion pour la littérature lorsqu'il avait 11-12 ans et qu'une grippe le cloua au lit. Ses parents lui achetèrent Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne. Plus tard à l'école, il aima Cyrano de Bergerac et il a lu tout Maupassant. Sur une île déserte, il emporterait volontiers La Route de Cormac McCarthy, Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet ou bien encore les bouquins de Ken Bruen. En 2008, sont parus deux romans de lui dans L'Entomologiste aux éditions Souni. Le capitaine Jacques Belloni doit répondre à ses épineuses questions. Pourquoi le meurtrier utilise-t-il des insectes pour parvenir à ses fins et pourquoi signe-t-il des crimes apparemment sans mobile en s'en prenant à des hommes aux vies insignifiantes? Chez les Ardents éditeurs, il proposait la même année un roman intrigant, bien écrit et superbement illustré par Pierre Desmarty aussi, Le Mystère H, récit d'aventure et fantastique où un narrateur qui ressemble à Watson enquête sur un certain H, Holmes, point d'interrogation, du Limoges de Théodore Haviland à Londres au début du siècle, en passant par une île mystérieuse, le lecteur est entraîné dans une captivante aventure sur les traces de l'explorateur disparu, Sir John Lucas. Les aquarelles qui ponctuent le livre rafraîchissent le concept du roman illustré tel que le connurent jadis les lecteurs des éditions Hetzel. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre roman.
Thank you for Thank you for love.
tendance. Laurent Bourdelin.
Franck Bouys, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce roman Londres avec un grand H comme ça sur la couverture ou les ruelles sans étoiles. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que je disais en ouverture de cette émission. Alors, le goût pour la littérature est venu pendant une grippe.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est vraiment, c'est la vérité, ouais. Ouais, ouais. Le goût est vraiment venu à ce moment-là, je crois, ouais. Avec Ces enfants du capitaine Grant. Et je crois qu'après, j'ai adoré être malade, finalement, toute l'adolescence.
Oui, c'est ça.
Parce que j'avais un Jules Verne à chaque fois, ouais. Un Jules Verne où j'ai lu comme ça l'Odyssée aussi, je me souviens.
Donc c'était bien au chaud, sous les couvertures, ouais. Avec un livre.
La solitude.
Ouais. On n'allait pas travailler à l'école, donc c'était bien d'être malade et de faire le lien entre la littérature et la maladie.
Et de voyager comme ça depuis son lit, c'était quelque chose de fabuleux. Ouais.
Est-ce que dès ce moment-là, vous avez eu envie d'écrire ou c'est venu plus tard ?
J'y repensais il n'y a pas très longtemps et je me suis aperçu que j'ai toujours voulu écrire. Et puis j'ai toujours écrit. J'ai lâché l'affaire un petit peu... Bon, la vie fait que parfois, on lâche un petit peu, mais c'est toujours resté en moi.
Ouais.
Et je crois que ce laps de temps a été... J'ai beaucoup lu, je me suis nourri, etc. Je pense que c'est très rare les écrivains qui deviennent écrivains comme ça du jour au lendemain à 20 ans. Je pense qu'il faut beaucoup lire, beaucoup... Il faut vraiment se nourrir.
Vous avez fait des études de biologie, c'est ça ?
Oui.
Comment ça s'articule, ça, chez vous ? L'écriture, la biologie ? Est-ce que la biologie peut nourrir l'écriture ou pas ? Est-ce que, par exemple, dans le mystère H, on se retrouve comme ça dans une végétation un petit peu, je ne sais pas, équatoriale ? Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout ?
Oui, bah, évidemment, quand j'en parle, je connais à peu près de quoi je parle. J'aime bien ça, en fait. À la base, j'aime beaucoup les métaphores. Et j'en fais parfois sur la végétation. C'est quelque chose que j'aime. Enfin, pour moi, la littérature, ça doit être ça aussi. Hein. C'est ce que disait bien Faulkner. Hein.
Oui.
Si c'est pour raconter ce qu'on voit exactement, je vois pas. Enfin, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais essayer de deviner les choses, les faire voir par un autre biais, ça m'intéresse, oui.
Comment est-ce que vous êtes passé à l'acte, si je puis dire ? C'est-à-dire, comment vous avez décidé, après ce laps de temps dont vous nous parliez, où vous êtes nourri, comment vous êtes décidé à écrire, finalement, à sauter le pas ?
Il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit une première version du Mystère H. C'était un journal, en fait. J'avais envie de voir comment j'avais digéré mes lectures adolescentes, Dickens, Stevenson, London, etc., que j'avais beaucoup lu, Verne. Et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et puis je l'ai laissé de côté, longtemps. Et en 2006, j'ai pas repris ça, j'ai pas repris le Mystère H, mais j'avais envie d'écrire un polar. Donc j'ai écrit L'entomologiste. Voilà. Et tout s'est enchaîné à partir de là. C'est-à-dire que le goût d'écrire m'est devenu... Enfin, c'est pas peut-être présomptueux de dire ça, mais c'est devenu facile, c'est-à-dire que ça coulait. J'avais pas besoin de construire quoi que ce soit, ça coulait tout seul. Et donc j'ai fait ce petit, je vais pas dire polar, mais ce petit roman noir. Et donc ça m'a donné le goût de reprendre le Mystère H. Cette idée m'avait bien plu à l'époque. Et voilà, c'est devenu ce qui était normalement, ce qui devait s'appeler Mystère H, est devenu le Mystère H, où j'ai retravaillé tout ça.
Alors, vous dites, bon, ça coule, ça vient facilement, c'est pas construit, vous avez dit, mais en fait, on a l'impression, quand on lit le Mystère H et Londres ou les ruelles sans étoiles, qu'au contraire, c'est un projet qui est très construit, à la fois dans son écriture, on va y revenir, mais peut-être dans le projet global, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes parti dans vraiment une fresque générale, je dirais, qui se construit en plusieurs étapes, en plusieurs épisodes, avec déjà ces deux romans, on subodore qu'il va y avoir une suite, c'est-à-dire que vous avez installé les choses avec le Mystère H, avec des hommes mystérieux. Alors je veux pas non plus trop aller peut-être dans les explications et dans les détails, parce que une grande part de l'intérêt de la lecture repose aussi sur une, sur le suspense, sur ce qui se passe. Mais on a l'impression que vous revisitez des grands thèmes de la littérature, notamment de la littérature anglaise, que vous revisitez les personnages aussi. Vous parliez de Dickens, peut-être Conan Doyle également. Donc vous avez réfléchi à ça avant, j'imagine.
Oui, oui. Alors pour ce qui est de la construction, oui, ça fait, c'est un peu. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on m'a fourni une espèce de, une toile, une grande toile, ouais. Et puis que j'ai commencé à peindre un personnage. Et,
un mystérieux personnage.
Un mystérieux personnage, ouais. Et puis après tout s'est enchaîné, mais je ne savais pas du tout, j'avais rien crayonné à la base. Quoi, ouais. Hein, tout a été. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est cette idée-là. Donc non, il n'y a pas de construction précise, hein, tout s'enchaîne en fait. Et le hasard fait souvent bien les choses.
Ah oui, là, il les fait très bien. Mais il n'y a pas de hasard, là, vous savez.
Il n'y a pas de hasard.
Quand on est écrivain, ce n'est pas possible, ça. Hein. Alors, vous avez ce personnage, la centrale, dont on ne sait pas exactement qui il est, s'il est bon, mauvais, qui est assez ambigu, avec qui les autres personnages ont des relations particulières. Vous inventez un peuple venu d'ailleurs, et donc il y a un mélange à la fois de polar, de suspense, de fantastique aussi, qui fait qu'on a là toutes les, alors je dis ça au sens positif du mot, toutes les recettes du bon roman populaire en fait, c'est ce que vous avez voulu faire, ouais. C'est un roman, les références que vous avez citées tout à l'heure, c'est ce type de roman là finalement, et qui a construit une très bonne littérature en fait.
Oui, si on regarde Dickens, oui, oui.
Bien sûr.
On peut imaginer que c'est de la bonne littérature.
Vous inscrivez dans, ouais. Quand même dans cette continuité.
Ben, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça quand j'étais plus jeune. Mais
je voulais des
pas...
histoires. Voilà. Raconter des histoires.
Ouais. L'histoire devient un prétexte en fait. Un prétexte. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la musique.
Ouais.
Et la musique va porter l'histoire. Mais pour moi, c'est jamais l'inverse. L'histoire se construit avec la musique.
Ouais. Comment vous travaillez votre style? Parce que c'est un style bien particulier, ce qui fait de vous justement aussi un écrivain à part entière. Il y a vraiment un style qui est, vous parliez de métaphore tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a un style aussi qui raconte presque au scalpel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les descriptions dont je parlais tout à l'heure d'un décor. Ça peut être cette forêt qu'on imagine équatoriale. Là, dans Londres, ou les ruelles sans étoiles, bien entendu, c'est Londres, c'est les docks, c'est l'East End aussi dont vous parlez, puis des quartiers peut-être un peu plus cossus. Comment vous travaillez votre style?
Comment je travaille mon style? En lisant beaucoup. Mmh. Et en essayant de pas justement... réinventer le fil à couper,
ouais,
le beurre,
ouais.
En lisant beaucoup. Et je crois vraiment que je suis porté, je me répète, mais je suis porté par une musique. Donc, c'est pas travailler le style, c'est me laisser porter.
Ouais.
Et la phrase en découle. Pour moi, ce qui est important, c'est la phrase. Et la phrase doit être une musique.
Ouais.
Et après, tout s'enchaîne, en fait. Le propos vient de la musique. Oui. Après, toute la difficulté est, est-ce que la musique va coller avec le lecteur? Est-ce que le lecteur
bien
va...
Bien sûr. Alors, d'après ce que vous dites, on a l'impression que vous écrivez et que l'intrigue, alors, va venir aussi comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas... Vous avez déjà réfléchi à l'intrigue au départ, quand même.
À peine.
À peine.
À peine, ouais. 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 C'est vraiment la musique qui porte l'histoire. Ouais.
Et vous laissez surprendre par vos personnages?
Ah, j'adore ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait, oui. Tout à fait, ils me surprennent, hein.
Alors, le thème de Londres ou les ruelles sans étoiles, ça, je crois qu'on peut le dire, il y a un lien, évidemment, avec Jack l'Éventreur, avec l'histoire de Jack l'Éventreur. Bon, évidemment, on ne racontera pas la fin. Et il va y avoir, en plus des personnages qu'on avait pu croiser dans le Mystère H. Oui, pardon, allez-y.
Je voulais juste revenir sur une chose. Oui. Tout à l'heure, on parlait de cette digestion de la littérature populaire, etc. Oui. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Je voulais parler de l'humain, en fait.
Oui.
Et donc les personnages un peu qui viennent d'ailleurs. Comment parler de l'humain si on ne prend pas un petit peu de hauteur, un peu de recul? Et pour moi, l'idée, la bonne idée, c'était justement de prendre peut-être des personnages qui...
venus d'ailleurs.
Ça me gêne un peu de dire ça, mais qui ont eux aussi du recul, en tout cas, sur l'humanité. Voilà. Et puis, encore une fois, on parlait, mes personnages, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais. Ouais. On pourrait parler longtemps du bien et du mal.
Bien sûr.
Mais je pense que l'humanité ne se résume pas au bien et au mal. Hein. Puis on est tous... on n'est pas... manichéen.
Alors justement, là, on est au cœur de, moi je trouve, de la thématique de ce livre-là, Londres, hein, ou les ruelles sans étoiles. C'est-à-dire que dans les deux principaux personnages, il y a d'ailleurs ce dialogue qui va s'instaurer, que vous faites s'instaurer entre Jonas, qui est interné dans un hôpital psychiatrique, et puis, alors du 19e siècle, hein, avec tout ce que ça peut être, et puis Walter Croft, donc, qui lui dirige cet asile de Bedlam, et qui va s'avouer beaucoup plus complexe et peut-être beaucoup plus noir qu'on pourrait le penser. Et finalement, ça fait de ce livre, et moi je trouve que c'est le thème évidemment principal, surtout avec la connexion avec Jack l'Éventreur, une réflexion sur la folie, alors une réflexion peut-être poétique aussi, hallucinée par moments, très hallucinée. Et je voudrais juste citer un passage qui est pour moi au cœur du livre. Vous dites « Nos vies rêvées ne peuvent se satisfaire de la douleur du réel. C'est pour cette raison qu'une folie salutaire habite les plus lucides. La folie, c'est la compréhension brutale du monde qui nous entoure et dont on ne peut se satisfaire, un rejet temporaire ou définitif. Vous trouverez peu d'hommes capables de disserter sur la folie, de la toucher, de la donner consciemment à avoir. J'aime les hommes complets et un homme sans folie est un homme incomplet. » Et puis cette réflexion se poursuit. Finalement, c'est peut-être l'écrivain qui est le mieux à même de dire ce que c'est que la folie.
Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans.
Si, allez-y un peu.
Non, mais c'est, ouais, le propos, c'est vraiment ça. Bon, il y a Jack l'Éventreur, mais c'est pas un bouquin sur le crime. C'est vraiment un livre sur la folie. Ouais. Effectivement, vous avez tout pigé. Hein, ça, c'est, et en fait, c'est un livre tout en faux-semblant. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce dialogue qui s'instaure entre le médecin aliéniste et son patient. Théoriquement, il y a la science, institutionnelle qui est là pour soigner, pour essayer de comprendre. Et puis de l'autre côté, il y a le patient. Mais comment justement un médecin aliéniste, un psychiatre, on va employer les mots actuels, comment on peut sortir indemne de tout ça quand on vit au milieu de ça? Et de l'autre côté, quand on est un homme, quel que soit l'homme, comment ne pas croire, comment ne pas imaginer qu'on n'est pas habité aussi par la folie.
Hein, oui. Et en plus, vous saisissez un moment où la psychiatrie est en train de se construire aussi, en fait. Hein. On est au 19e siècle, il va y avoir Freud, il y a les travaux de Charcot en France, et donc on baigne dans cette progression de la science aussi, mais la science, ben justement, elle apporte pas forcément toutes les réponses.
On essaie de comprendre, et justement, dans ces époques charnières, justement, ces médecins-là, aliénistes, ils étaient un peu tout-puissants, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tout tenter, hein. Donc le pire...
Oui, c'est ce que vous suggérez. Ouais. Vous suggérez des expériences aussi, certainement cruelles. Et c'est là que ça va rejoindre, à un moment donné, Jack l'Éventreur.
Ça se pourrait, oui.
Oui, allez-y.
Non, mais c'était vraiment ça. Donc, c'était une époque où la science peut tout se permettre. Donc, c'est assez... ça peut être assez... bizarre.
Cette réflexion-là, c'est une réflexion sur votre propre folie, sur la folie, la rage que vous avez peut-être en vous
Ah, je suis complètement fou, oui, c'est sûr. Ouais. Ouais.
Et donc, écrire, ça, c'est quoi? C'est aussi, on ne va pas employer grands mots là, de thérapie, etc., mais ça aide à aller creuser, à aller gratter en vous?
Oui, évidemment. Ouais. Oui. Alors, c'est pas un besoin d'expulser des choses ou quoi que ce soit, c'est surtout une envie de comprendre.
Alors évidemment, si on parle de Jack l'Éventreur et qu'on parle des femmes, quelle relation avec les femmes, quelle relation complètement folle et torturée. Et Jonas aussi, l'autre personnage, a une relation particulière aux femmes, dès le début d'ailleurs, puisque une relation particulière à sa mère, aux femmes qu'il va rencontrer. Il se sent orphelin, il a besoin de trouver quelqu'un. Comme ça, il y a aussi une quête de maternité, une quête d'amour dans ce livre, finalement, mais qui va être faussée par peut-être le milieu social et par cette folie d'une époque et d'un milieu social.
Oui, bah le récit commence là-dessus. Bon, je ne vais pas le dévoiler, mais
non.
Le ressort dramatique débute par une tragédie, quoi, en fait, c'est ça. Et comment on peut vivre après... après une telle tragédie. Quel rapport on va avoir avec les femmes, avec l'humain en général, si ce n'est essayer de s'en échapper peut-être par la folie. Oui.
Alors c'est un livre qui est aussi, je dirais, qui est rempli de références, mais non pas des références lourdes et qui pèseraient, mais on pense à tous ceux qui, avant vous, ont écrit sur ces thèmes. On citait aussi Charles Dickens tout à l'heure. Le parcours de Jonas nous fait penser au héros de Charles Dickens. Donc c'est pour ça que je parlais de revisiter finalement la littérature, mais non pas la parodier, au contraire, se la réattribuer. Et quand on finit ce livre qui est tout à fait intéressant, passionnant, qu'on ne lâche pas, c'est-à-dire qu'on lit d'une traite en fait, on se dit, et maintenant, il travaille sur quoi ? Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'on va continuer à avoir ce plaisir ? Donc, la fresque continue ?
Alors, juste, oui. Alors, l'idée, oui, c'était ça, c'était de prendre cette littérature-là, mais de l'actualiser par mon écriture.
Oui, c'est
réussi. Ça sert à rien de réécrire à la façon du 19e ou du début du 20e. Donc je me suis amusé à parsemer, oui, on reconnaît parfois Fagin le Juif de Dickens, quand ils apprennent avec Oliver Twist, etc. Donc l'idée c'était ça à la base. Alors effectivement, oui, je suis en train de travailler sur le dernier volume de la trilogie, puisque ce sera une trilogie.
D'accord.
Parce que j'en ai pas fini. C'est, encore une fois, ce ne sont pas des suites, hein, puisque c'est pas chronologique du
tout.
On pourrait les lire quasiment.
Ouais. Ou séparément,
voilà,
bien sûr.
C'est comme si j'avais mis mes personnages sur une table et puis que je les éclairais de différents endroits. Voilà. Et puis, j'ai envie de les éclairer, là, en ce moment, d'encore plus haut.
Bon, d'accord. Vous travaillez aussi, enfin, je ne sais pas, vous allez nous expliquer comment ça se passe, avec Pierre Desmartis. Est-ce que c'est un souhait qu'a eu l'éditeur Jean-Marc Ferrer de faire appel à un illustrateur ? Comment ça se passe, votre travail ? Il lit ce que vous écrivez, et puis après, il va faire ses propres créations ?
Alors, c'est une idée qu'on a eue tous les deux avec Pierre, avec Pierre Desmartis. On a proposé le projet quasiment bouclé, c'est-à-dire avec dessin et écriture.
Vous renouez là aussi avec la grande tradition. Je parlais d'Hetzel tout à l'heure. Vous m'aviez dit que vous aviez lu Jules Verne. C'est un peu dans cet esprit-là, mais là encore modernisé, entre guillemets, rendu plus contemporain.
C'est ça, voilà. Ouais. L'idée, c'était de prendre cette façon d'éditer des bouquins, illustrés, et de moderniser tout ça. Donc, moderniser la mise en page, donc reprendre quelque chose qui était complètement abandonné, le moderniser, essayer de moderniser l'écriture, enfin tout, de faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Donc c'était ça l'idée. Donc on l'a proposé à Jean-Marc Ferrer, qui a accepté le projet, et puis c'est parti comme ça. Alors Pierre travaille, moi j'ai écrit l'histoire quand il travaille, tout est écrit. Et après il s'imprègne du texte et il me propose des choses.
Ah oui, vous propose. Et vous dites, ah ben non, ça me plaît pas, ou ça me plaît.
J'avoue que je deviens de plus en plus
exigeant.
C'est...
En tout cas, il fait un admirable travail.
C'est magnifique.
Y a une question traditionnelle dans cette émission, quand on reçoit un écrivain ou un poète, c'est de lui demander où est-ce qu'il écrit, dans quelles conditions il écrit, est-ce qu'il écrit le jour, la nuit, dans une pièce particulière, est-ce qu'il a des manies d'écriture, comment ça se passe pour vous?
Alors, je ne suis pas darwiniste, dans la fonction crée l'organe, là. C'est-à-dire, je me pose, peu importe l'endroit. J'aime beaucoup les bars. J'aime beaucoup les bars, m'isoler dans un bar avec la musique sur les oreilles et puis voir les gens passer. Mais franchement, il suffit que je me pose avec mon carnet, puisque j'écris à la main, pour que ça vienne.
D'accord. Voilà. Vous nous dites que c'est une trilogie. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que ça y est, maintenant le processus d'écriture est engagé, est enclenché, qui ne va pas s'arrêter. Donc, vous avez déjà réfléchi à d'autres choses complètement différentes, peut-être, je ne sais pas.
Alors, j'ai un petit projet là qui paraît au mois de juin, qui est des textes que j'ai écrits pour un ami à moi qui s'appelle Franck Le Gall autour d'un personnage de bande dessinée, pour les éditions Dupuis. Donc, je lui ai fait une trentaine.
C'est vrai. Vous écrivez aussi sur la BD, sur la photo.
Donc, je lui ai fait une trentaine de pages autour de son personnage. Et puis, sinon, j'ai écrit un polar et j'en travaille un autre que je vais proposer à des éditeurs. Donc, c'est mon projet aussi en parallèle du troisième volet de H. Ouais, je travaille là-dessus aussi. Je voudrais bien publier un polar, enfin un autre roman noir.
D'accord.
Je suis resté un peu sur ma faim avec l'entomologie. J'en ai pas fini non plus avec. Avec le côté contemporain.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu, Franck Bouys, aujourd'hui parler de ce livre, hein, Londres ou les ruelles sans étoiles, un livre à multiples rebondissements, tiroirs, et qui obligatoirement non seulement séduit, intéresse, mais fait beaucoup réfléchir sur ce qu'est l'homme, en fait. Et donc, vous reviendrez nous parler des autres livres.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Shoes click clacking down some dead end street. Take these shoes and make them fit. Take this shirt, polyester white trash made in nowhere. Take this shirt and make it clean. Take this soul, stranded in some skin and bones. Take this soul and make it safe.
No.